On va commencer une nouvelle série de prédications. Ça va être sur le livre de Jérémie. Donc, on va commencer à regarder ce que le livre de Jérémie a pour nous, les hommes du 21e siècle. Ouvrons donc nos Bibles aujourd'hui. Donc, au Jérémie chapitre 1. On va lire le premier chapitre, verset 1 au 19. Parole de Jérémie, fils de Hilkia, l'un des sacrificateurs de Anatote, dans le pays de Benjamin. La parole de l'Éternel lui fut adressée au temps de Josias, fils de Hanon, roi de Juda, la 13e année de son règne, et au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la fin de la 11e année de Sédécias, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à l'époque où Jérusalem fut emmenée en captivité au 5e mois. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. J'ai répondu, « Ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler car je suis un enfant. Car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu dirai tout ce que je t'ordonnerai. Ne le crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel entendit sa main et toucha ma bouche, et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. » La parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. « Que vois-tu, Jérémie ?» J'ai répondu, « Je vois une branche d'amandier. » L'Éternel me dit, « T'as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. » La parole de l'Éternel me fut adressée une seconde fois en ces mots. « Que vois-tu ?» Je répondis, « Je vois une chaudière bouillante du côté du septentrion. » Et l'Éternel me dit, « C'est du septentrion que la calamité se répandra sur tous les habitants du pays. Car voici, je veux appeler tous les peuples des royaumes du septentrion. Tentrions, dit l'Éternel. Ils viendront et placeront leur siège à l'entrée des portes de Jérusalem contre ses murailles tout alentour et contre toutes les villes de Juda. Je prononcerai mes jugements contre eux à cause de toute leur méchanceté, parce qu'ils m'ont abandonné et ont offert des encens à d'autres dieux et parce qu'ils se sont prosternés devant l'ouvrage de leurs mains. Et toi, Saint-Terrain, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Voici, j'établis en séjour sur tous les pays comme une ville forte, une colonne de fer et un mur d'airain contre les rois de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs et contre le peuple du pays. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Amen. Donc c'est jusque-là le premier chapitre qu'on a à lire aujourd'hui. Je veux commencer avec une question. Est-ce que le peuple québécois, peuple canadien, est-il ouvert à la vérité de l'Évangile? Est-ce qu'ils sont intéressés quand on les parle de Jésus? Sont-ils ouverts de lui parler de lui? Pas vraiment. La société dans laquelle nous vivons aime se dire on aime la spiritualité, on n'est pas sauvage, on n'est pas non-croyante, on a notre spiritualité. Disons, dans un autre terme plus scientifique, la science des religions part d'une religion à la carte pour le 21e siècle. L'homme du 21e siècle est un homme cool, n'est-ce pas? Il aime être ouvert à tout. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il prend des choses d'une religion, d'autres choses d'une autre religion. Disons, de toutes ces religions ancestrales, il aime bien parler de la terre, de la mer nourricière. C'est s'approcher de la nature. Et la nature, c'est quelque chose qui te fait du bien. C'est cool, s'approcher de la nature, n'est-ce pas? Y a les religions orientales qui sont encore avec un bon empressement sur l'Occident, disons, oui, on aime bien, yoga, c'est bien, c'est cool, ça fait du bien à la santé. Y a certains qui encore sont assez ouverts vers d'autres parties de la religion orientale, comme, disons, plein de bien choses, le végétarianisme qui vient de là. Être végétarien, végétalien même, ah, c'est très bien ça. N'est-ce pas? Donc, parfois on aime même le christianisme. Oui, Jésus, c'est un bon homme. Il a fait des bonnes choses. Laissez-le. C'est. Évidemment, il y a des choses que ça nous plaise. C'est intéressant, c'est bien. Tout mélangé. Disons que toutes ces religions-là, d'ici et de là, toutes sortes des idées nouvelles sur ce qui est l'homme, la place de l'homme, un homme Dieu, un homme qui est à tout puissant, ça paraît bien. L'homme religieux du 21e siècle, il est inclusif. Il est ouvert à tout. Il est ouvert d'esprit. Alors, quand tu essayes de lui parler de christianisme, vas-y, t'es borné, toi. Non, est-ce qu'on ne peut pas parler de ça? Parce que vous êtes exclusif. C'est juste vous. Il n'y a pas d'autre. Pourquoi? Donc, je dirais que en regardant le siècle de Jérémie, on n'est pas très loin de son siècle. Qu'est-ce qu'il fait le peuple de Juda, le peuple d'Israël avant? C'est ouvert à toutes les religions. Quand Éternel est fâché contre les rois de Juda ou d'Israël, même ceux qui sont bons, parfois on voit, oui, il a fait le bien pendant sa vie, mais il n'a pas détruit les autels qui étaient sur les auteurs. Parce que ce qui faisait Juda et Israël en même temps, dans les auteurs, il avait des autels pour toutes les divinités qui étaient autour. Donc, oui, on ira tous au temple. Le temple, c'était bien, mais pourquoi avoir quelque chose avec leur divinité, que c'est des Baal, que c'est des divinités qui viennent de Syrie, qu'il y a d'autres qui venaient de Philistiens, il y a d'autres qui venaient d'Égypte. Souvent, les rois d'Israël mariaient, n'est-ce pas, les princesses des autres régions, comme Salomon l'a fait. Alors, ces princesses-là, quand ils arrivaient là-bas, ils avaient avec leur divinité. On construisait un petit hôtel pour leur divinité. Donc, on rajoutait au pays d'autres divinités. Et le peuple, petit à petit, s'est ouvert. Est-ce que vous avez trouvé qu'il n'y avait pas un grand prêtre, qu'il n'y avait pas un temple à l'époque de Jérémie? Évidemment qu'il y en avait. Et ce sont les ennemis principaux de Jérémie. Ce sont le grand prêtre, Pachour, et puis les autres prêtres. C'est eux qui trouvent que, ah bah t'es vraiment borné toi. Avec toi, on n'arrive pas. Ton Dieu, là, c'est juste comme ça. Disons, on n'est pas si loin, parce que, voyez-vous, étudier les prophètes de l'Ancien Testament, ça paraît fastidieux, difficile, c'est encore Jérémie, il y a combien? 52 chapitres? Oh là là, encore 4 chapitres de plus pour les Lamentations. Il écrit beaucoup là. Étudier ça même quand tu commences à lire, ça m'arrive. Ah, Jérémie, encore, 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 ça c'est fatigant. Mais en même temps, si on s'attarde un petit peu, on voit que le monde ne change pas tant que ça. Et le monde religieux ne change pas tant que ça. Alors, ce qui, lui, a dit quelque chose pour l'homme de 7e ou 8e siècle avant Jésus-Christ, c'est encore de l'actualité pour nous. Est-ce qu'on pourra encore voir dans quelle mesure c'est de l'actualité? C'est quand même important de regarder ce livre-là. C'est un livre que Dieu même a demandé d'être écrit. C'était les prophéties de Jérémie, et Dieu lui a vraiment demandé par la suite de les écrire. Il avait aussi un secrétaire personnel, Baruch, qui écrivait pour lui. Mais regardez, juste comme ça, dans chapitre 36, verset 2. On va lire quelques versets là-bas. Prends un livre et tu écriras toutes les paroles que j'ai été dites sur Israël et sur Juda, sur toutes les nations, depuis le jour où je t'ai parlé au temps de Josias jusqu'à ce jour. Reviens dans verset 4. Jérémie appela Baruch, fils de Neria, et Baruch écriva dans un livre sur la dictée de Jérémie toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Jérémie. Même que ce premier livre a été détruit, parce qu'on n'aime pas trop l'idée d'avoir toutes ces paroles de l'Éternel, et que l'Éternel revient. Dans le verset 28 de même chapitre 36, on a toujours écrit « Prends de nouveau un livre et tu écriras toutes les paroles qui étaient dans le premier livre qu'a brûlé le roi, Joachim, roi de Juda. » On n'aime pas ce que Dieu a à transmettre au peuple de Juda. Donc, et Dieu insiste, reprends de nouveau et écris de nouveau, parce que ces paroles que je t'ai données sont importantes. Donc, sont importantes pour nous aussi, parce que Dieu ne change pas. Pensez-vous que dans 2 000 ans, Dieu changera? Mais il est de l'éternité, l'éternité. Et il ne change pas si facilement que ça. L'Éternel est le même. On voit que même l'homme ne change pas tant que ça. Oui, il y a la technologie. On a une autre vue sur le monde. Mais en lui-même, il est assez semblable. Donc, regardons dans ce sens-là ce que Dieu a nous dit à nous, l'homme, évidemment du 20e siècle, mais aussi comment il va appeler tout d'abord Jérémie. Qui est lui? Qui est Jérémie? On a regardé déjà le premier verset, on part de lui, parce que c'est un des écrits de la Bible le plus autobiographique qui existe. Il y a énormément, on voit énormément tout ce qu'il a ressenti, tout son vécu de Jérémie. On le voit là-bas. Et il commence effectivement en se présentant. Parole de Jérémie, fils de Hilkia, l'un des sacrificateurs de Anatot, dans le pays de Benjamin. Anatot. Ça ne nous dit pas grand-chose, n'est-ce pas, Anatot. Anatot, c'est une petite ville qui est au nord de Jérusalem. Au sud de Jérusalem, vous savez, il y a une autre ville. Vous savez comment ça s'appelle? Bethléem. Bethléem, c'est au sud. Et au nord de Jérusalem, c'est Anatot. Aujourd'hui, apparemment, les Arabes appellent ce qui était le village les ruines des Juifs. Ce qui était cette petite localité au nord de Jérusalem qui était Anatote. Mais pourquoi sacrificateur? Pourquoi prêtre Anatote? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelque chose que certainement vous vous rappelez, n'est-ce pas? Dans l'histoire que vous connaissez, l'histoire de David, il y a un prêtre, un grand prêtre à l'époque de David. Son nom est Abiathar. Même si vous vous rappelez, dans Luc chapitre 3, Jésus, avec ses disciples, traverse dans le champ, ils ont faim, ils prennent deux épis, ils mangent et ils partent de cette époque-là où David a mangé de pain à l'époque du grand prêtre Abiathar. Donc, à l'époque de ce grand prêtre Abiathar qui a bien été de côté de David, de sa jeunesse, qui aime David, qui soutient David, le grand prêtre à cette époque-là, mais qui fait une bêtise à la fin de sa vie. David est âgé, pas vraiment capable encore de diriger le pays, et ses enfants veulent prendre sa place. Et puis il y a un de ses enfants, Adonia, qui fait une petite révolte, il organise un certain soutien, et parmi ceux qui soutiennent Adonia se trouve le grand prêtre. Donc Abiathar est de son côté. Mais David n'est pas d'accord que celui qui va succéder soit Adonia. Et parce qu'il va mettre avant sa mort Salomon sur le trône, Salomon, quand il arrive au pouvoir, il va faire quoi avec Abiathar? Il va dire, bah, j'étais coupe pas de ta tête, mais j'étais sort de Jérusalem et ta place, ça va être là, dans ce village-là au nord. Apparemment, dans ce village qui est au nord de Jérusalem, les descendants, parce que les descendants de prêtres, ils sont des prêtres, c'est un sacerdoce qui existe là autour de cette ville de Anatote. Et parmi les descendants de Abiathar se trouve Jérémie. Donc il est des descendants d'un grand prêtre quand même, Jérémie. Donc il vient de là, Jérémie, de Anatote, de cette descendant de Abiathar. Donc, c'est quelqu'un qui, de sa jeunesse, il est appelé par Dieu. Bon, il dit un enfant, il n'a pas appelé comme un enfant, mais c'est un adolescent, certainement, qui n'est pas encore prêt, qui ne se voit pas prêt à faire un travail pour Dieu, à devenir un prophète de Dieu. Qu'est-ce que c'est un prophète de Dieu? C'est quelqu'un qui annonce la volonté de Dieu et qui ouvre le chemin pour le peuple de Dieu. Quelle est la direction qu'il doit prendre? Il est là pour parler aux gens de ce que Dieu voudra. Disons, dans cette époque-là, dans toutes les grandes peuples de l'Antiquité, on cherche les oracles, ce que Dieu a nous transmettre. Et tous les peuples, ils ont leur Dieu. Ils veulent savoir qu'est-ce que leur Dieu a à leur dire. Donc, disons, c'est quelque chose de tout à fait normal. Mais encore que dans le peuple de Dieu, on a besoin qu'il soit dirigé par Dieu. Parce que plus que le roi, parfois, assez souvent, disons, les rois ne sont pas selon la volonté de Dieu. Donc, il a de la difficulté à les parler directement, comme à David, n'est-ce pas? Donc, sa descendance n'est pas tout aussi attachée à leur Dieu. Mais voilà, donc, à ces moments-là, on l'appelle. Et c'est intéressant, quelle est la réaction de ce jeune Jérémie? Il dit, Ah Seigneur éternel. C'est quelque chose de vraiment intéressant. Vous savez, quand Moïse a été appelé, et on trouve ça dans Exode 4. Moïse dit la même chose. Seigneur éternel. T'as pas trouvé un autre. C'est un travail très difficile. Il se rend compte que c'est pas évident d'être appelé par Dieu, encore qu'il est tout jeune. Mais Moïse, il est âgé. Il a 80 ans quand Dieu l'appelle. Et il a dit la même chose. Jeune ou âgé, a été appelé par Dieu. Il dit, ah Seigneur éternel. Donc c'est, il, ça ne veut pas dire qu'ils ne les ont pas fait. Aussi un que l'autre vont faire leur travail de tout leur cœur. Mais ils ont entrevu la difficulté de la tâche. Parfois, quand Dieu t'appelle, pour certaines tâches, tu vois que ce n'est pas si évident que ça. Et tu aimerais peut-être dire, et que tu n'as pas d'autre, Seigneur. Mais bon, il est jeune, il est assez jeune, et il nous dit assez clairement à quel moment, dans la 13e année du règne de Josias. Josias a été fait roi à 8 ans. Il était enfant quand il était fait roi. Donc Josias avait quoi? 20 ans au moment où Jérémie a appelé. Donc probablement la différence n'était pas si grande entre l'âge du roi et du prophète que Dieu appelle. On le voit déjà parce qu'on ne sait pas énormément des choses exactes sur la date, sur des choses assez précises, mais quel est exactement son âge. Mais on voit, si on regarde bien, combien de temps il était prophète de Dieu, on sait que c'est jusqu'à la tombée de Jérusalem, qui est en 587. Donc si au 13e année, c'est 626, je ne me trompe pas, ça reste 48 ans. 38 ans, pardon. 38 ans, il a été grand prophète de Dieu pendant 38 ans. On a quatre grands prophètes, n'est-ce pas, dans la Bible. Est-ce que vous savez qui sont les grands prophètes qu'on considère les grands prophètes? Ésaïe, Ézéchiel, Jérémie et Daniel. Donc ça, c'est ces quatre-là qu'on les considère les grands prophètes. Ils sont là dans des périodes extrêmement difficiles du peuple d'Israël ou des Judas. C'est une période assez difficile quand, malheureusement, oui, à l'époque de Josias, ça va, mais il y aura des rois qui se sont éloignés complètement de Dieu, qui n'aiment pas Dieu. Et après lui, on verra que à cause de ces rois, à cause de ce peuple qui n'aime pas Dieu, Dieu a un jugement assez dur contre Juda et Jérusalem. Voilà. C'est triste, mais c'est malheureusement comme ça. Donc, mais Dieu l'appelle lui. Parfois, on se dit, pourquoi quelqu'un qui est un descendant d'un grand prêtre qui a fait une bêtise? Pourquoi quelqu'un qui fait de bêtises dans sa vie? Pourquoi Dieu a quand même quelque chose pour lui? Parce que au-delà, c'est la grâce de Dieu. Dieu l'a déjà préparé du ventre de sa mère. Et pas seulement il l'a préparé du ventre de sa mère, il l'a connu. Il dit, c'est extrêmement intéressant ce verset-là. Avant que je te formais dans le ventre de ta mère, j'étais connaissé. Et le mot connaissait, ce n'est pas une connaissance superficielle. C'est une connaissance profonde, intime. Donc Dieu le connaissait avant qu'il soit même formé dans le ventre de sa mère. On n'a pas énormément de textes comme ça, mais il y en a un que vous certainement vous connaissez très bien, n'est-ce pas? C'est le verset de Galatiens 1, 15. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part, dans le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce. C'est qui celui qui dit ça? Paul. Exactement la même chose. Il m'a mis à part du ventre de ma mère. Un Dieu qui te connaît avant que tu existes. Que tu existes. Même avant que tu sois déjà formé dans le ventre de ta mère, Dieu te connaît. Et il l'a connu et il l'a préparé afin qu'il soit prêt. Parce que c'est une chose extrêmement intéressante. Oui, il est jeune. Mais pour Dieu, il est déjà prêt. Dieu l'a préparé encore. Il l'a mis à part. Parce que consacré ou mis à part ou sanctifié, c'est la même chose. Parce qu'on traduit la même chose avec des différents mots. On t'a consacré, on t'a mis à part, on t'a sanctifié du ventre de ta mère. C'est que tu as été déjà de là, à partir de ce moment-là. Tu es dans le plan des dieux. Dieu a besoin de toi. Est-ce qu'on se rend compte combien Dieu nous a aimés? C'est vrai qu'il y en a certains qui les ont préparés, qui les ont appelés les tout jeunes. Mais il y en a des autres ont eu besoin encore de 80 ans, comme Moïse, n'est-ce pas? Après avoir été né, il a encore eu besoin de 80 ans pour être formé, qu'il soit prêt pour sortir le peuple d'Égypte. Mais Yona, lui, il est déjà là. Et déjà toute jeune, Dieu l'appelle. Parfois, on devrait accepter qu'il y a des jeunes qui prennent leur place. Dieu peut appeler des jeunes. On a besoin que des jeunes puissent être appelés par Dieu, que Dieu suscite un ministère déjà pour ceci. Aussi, comme il y a des âgés, comme Moïse. Et souvent, on a des jugements des valeurs, n'est-ce pas? Oh, il est très jeune, lui, il est très vieux, lui, il a je ne sais pas quoi, lui, il a quelle descendance, lui, ses parents ont fait des bêtises, c'est lui qui a fait des bêtises. Nous, comme humains, on a toutes sortes de jugements. Pour nous, c'est jamais bien. Mais c'est à Dieu de faire l'appel. Si c'est moi qui va dire, moi, je veux faire quelque chose pour Dieu, ça n'a aucune valeur. Je ne peux pas faire grand-chose. Mais si Dieu t'appelle, et l'appel, c'est dans une communion avec lui. Certainement, c'est plus tu es proche de Dieu, plus tu peux écouter l'appel. Si Dieu t'appelle, c'est qu'il a besoin de toi. Alors, laisse-toi utiliser par Dieu. C'est très souvent aussi jeune que âgé, ils se disent, bon, ou mon temps n'est pas venu, ou mon temps est passé. il faut que je me retire. Oh, j'ai encore du temps tant que je ferai quelque chose. Il y a toujours quelque chose. On a toujours des excuses. Mais Dieu ne veut pas d'excuses. Dieu veut qu'on le suit, qu'on accepte sa volonté. N'est-ce pas? Avant donc, tu n'as pas besoin. C'est une chose intéressante. Dieu ne lui avait pas dit, dans 10 ans, tu seras mon prophète. Dieu ne lui dit même pas, si tu vas passer cet examen-là, tu seras mon prophète. Non, Dieu lui dit, tu es déjà prophète. Est-ce que tu vois des choses? Il dit, je vois. Ça, c'est déjà. Il est déjà prophète. À ces moments-là, il est déjà un prophète. Qu'est-ce qu'il dit? La première chose qu'il demande, est-ce que tu vois des choses? Qu'est-ce qu'il va pour la première fois? Qu'est-ce que vous regardez? Verset 11. Une branche d'amandier. Qu'est-ce que ça vous rappelle, la branche d'amandier? L'arche, exactement. Qu'est-ce qu'il y avait dans l'arche? La verge d'Aaron, n'est-ce pas? À l'époque, on a étudié pas très longtemps dans Nombre, N'est-ce pas, quand c'était la révolte de Corée, et puis toute sa gagne qui est autour de Corée, Dieu dit, écoutez, il y a 12, n'est-ce pas? Vous êtes 12 tribus d'Israël. Chacun, il sort une verge. Et la verge qui, jusqu'au lendemain, va produire de feu et fleurit là, ça va être celui que je l'ai choisi. Et la verge d'Aaron fait quoi encore? Fleurit et quoi? Produit des fruits qui sont déjà mûris. C'est l'amandier. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est la confirmation. La première chose qu'on peut apprendre avec ces branches d'amandier, c'est une confirmation de Dieu. Dieu t'a confirmé aujourd'hui avec ça que tu es mon prophète. C'est une confirmation. Qu'est-ce que c'est aussi l'amandier pour Isaac? Est-ce que vous savez, quand j'étais, ça fait 1 an et demi, on était avec René, on était à Jérusalem en février. Il y a un arbre qui était tout en fleurs. C'est l'amandier. Il était de toute beauté. Plein d'amandiers, tout en fleurs. Et ça sentait bon. C'est l'amandier annonce le printemps en Israël. Quand l'amandier fleurit, c'est que le printemps est là. C'est que, comme il le dit, donc, j'ai veillé sur ma parole pour l'exécuter. Le temps est arrivé. L'amandier a fleuri. Le temps est arrivé. Ça annonce quelque chose, l'amandier. Ça, à partir de maintenant, il y a des choses qui vont se passer. C'est quelque chose qui est bien établi. Et puis après quoi, il va aussi d'autres choses. Qu'est-ce que tu vas encore, Jérémie? Il y a d'autres questions. Chaudière. Il voit une chaudière. C'est quoi cette chaudière-là? C'est une chaudière qui bouillonne, qui est là dans le nord. C'est le peuple de Assyrie. Les Assyriens qui sont devenus une puissance extrêmement forte. C'est un peuple. Jamais une armée n'a été assez cruelle que les Assyriens. Ils étaient d'une cruauté incroyable. Ils tuaient pour le plaisir de tuer. Ils passaient tout par l'épée, par le feu et l'épée. Et tout le monde avait peur d'Assyrie. Tellement devenue puissante. Ils ont mangé comme ça, Babylone. C'était à eux. Oh, certains pensaient. Il n'y a pas de solution d'échapper aux Assyriens que de partir en Égypte. Il y a un certain moment dans le chapitre 42, quand on part d'Égypte, ils pensent que, ok, là on pourra se cacher, on partira avec tous nos biens et on partira, on va fuir de Assyrie en Égypte. Ils demandent même à. C'est une. Épisode assez intéressant, il demande à Jérémie de regarder ce que Dieu avait avec eux. Et Dieu, après 10 jours, Seigneur lui parle à Jérémie et lui dit, transmettre au peuple de ne pas partir en Égypte parce qu'ils seront tous tués. Mais s'ils vont rester ici, je le garderai. Et qu'est-ce qu'il dit à ce moment-là à Jérémie? Ah, t'es un menteur. C'est des mensonges que tu nous dis, transmets. Ils sont partis quand même. Et pensez-vous que Nebuchadnezzar a eu peur de l'Égypte? Rien du tout. Il entre, il vainque l'Égypte comme ça. L'autre grande puissance. Il va tuer tous ceux qui sont partis, qui avaient peur de lui. Il n'est pas retourné à Babylone, dans la ville d'Assur, sans le butin de la guerre. Il a pris encore plus. Il n'est pas venu pour rien jusqu'à Jérusalem. Donc, il faut bien savoir que c'est cette chaudière qu'il voit. Mais la chose qui est la plus intéressante de voir, c'est que Dieu appelle Nebuchadnezzar, mon serviteur. Nebuchadnezzar fait exactement ce que Dieu lui demande. Tu vas punir Juda parce qu'il n'écoute pas, parce qu'il ne me respecte pas, parce qu'il est parti après les autres divinités. Et Dieu est un Dieu jaloux. Il n'accepte pas d'être partagé avec les autres. Il n'accepte pas qu'on soit comme aujourd'hui. Ouais, Jésus est bien, mais les autres, c'est bien aussi. Oui, il ne veut pas qu'on soit inclusif, qu'on admette toutes les autres religions et d'autres idées religieuses dans le christianisme. Il veut qu'on lui soit fidèle. Lui, il est fidèle. Il veut qu'on nous, on soit fidèles pareillement à Dieu. C'est ça qu'il veut. Bon, on n'a pas beaucoup de temps pour passer pour le ministère de la prophétisation de Jérémie. Certainement, on parlera plus longtemps par la suite, mais je veux juste insister ici et là sur quelques aspects de qu'est-ce que ça signifie son ministère des prophètes. On lui dit tout d'abord de se lever contre la dépravation du peuple de Juda. Mais c'est ahurissant. Regardez qu'est-ce qu'il dit dans le chapitre 5, verset 1. Parcourez les rues de Jérusalem, regardez, informez-vous, cherchez dans les places. S'y trouve un homme, pas plus, un homme, s'il y en a un qui pratique la justice, qui s'attache à la vérité, et je pardonnerai Jérusalem. Combien il y en avait? Zéro. Il ne trouve pas un à Jérusalem. Il ne trouve même pas un, Dieu dit. C'est même pas comme à Sodome et Gomorre. On demande une dizaine, n'est-ce pas? On réduit. Si vous trouvez 10, il dit un si vous trouvez. Son cœur pour Jérusalem est tellement grand. Trouvez-moi un, s'il vous plaît. Il n'y en a pas un qui fait la justice, qui pratique la justice. Dans chapitre 23, verset 11, il dit, « Prophètes et sacrificateurs sont corrompus. Même dans ma maison, j'ai trouvé leur méchanceté. » C'est dans le temple, n'est-ce pas? Prophètes et sacrificateurs sont corrompus, n'est-ce pas? C'est terrible, ça, de voir aussi. Donc, dans ce sens, il est le porte-parole de Dieu. C'est la voix de Dieu qui essaye, au dernier instant, de le détourner de toutes ces divinités, de tous ces dieux. Ils sont allés jusque-là à sacrifier les enfants à Baal. Il veut les détourner vers lui. Mais il n'arrive pas, il donne parfois des exemples assez plastiques, comme la vase d'argile, comme la ceinture de lin. On va certainement avoir le temps de regarder tout ça. Et puis, on lui donne des restrictions incroyables. Savez-vous qu'est-ce que le Seigneur lui dit à Jérémie? Dans chapitre 16, verset 2, « Tu prendras point de femme et tu n'auras dans ce lieu ni fils ni fille. » Par la suite, verset 5, « Car ainsi parle l'Éternel, n'entre pas dans une maison de deuil, n'y a pas pleurer, ne pas te lamenter avec eux, car j'ai retiré à ces peuples ma paix, ma bonté et ma miséricorde. Mais n'entre pas non plus dans une maison de festin pour t'asseoir avec eux, pour manger et pour boire. C'est un jugement assez dur envers le peuple de Juda. Mais il a une mission extrêmement difficile et pleine de souffrances. Il vécut difficilement dans une période de famine, parce que le Seigneur n'a pas béni à l'époque le peuple de Juda. Et ils vivent dans la famine. Et lui qui est en prison, parce que le grand prêtre Pachour dit c'est bien expliqué dans le chapitre 20, frappa Jérémie et l'a mis dans la prison. On l'a jeté dans un trou à un certain moment, juste pour finir avec lui. On ne veut plus entendre Jérémie. On voulait le tuer. C'est juste que les soldats, l'armée n'est pas d'accord quand tu dis, il n'y a pas de raison. Il n'a rien fait. On aurait voulu finir avec lui, mais Dieu ne permet pas. Lui a promis. Déjà de ce premier chapitre qui nous raconte, il lui dit clairement qu'il va le garder. Il va le garder. Il continue par la suite aussi. Il arrive au verset 15, verset 18, il dit, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi comme une source de trompeuse, comme un eau dont on ne part sûr? Il vit beaucoup de douleurs parce qu'on le haïsse. Car toute fois que je parle, il faut que je crie. Que je crie à la violence, à l'oppression. Et la parole de Dieu, de l'Éternel, est pour moi un sujet d'opprobre, dérisé chaque jour. On n'accepte pas ce qu'il fait. Bon, il y a quelque chose à la fin que je dirais que ça rassemble aussi cette souffrance, ce message qu'il a, comme un petit peu le message de Jésus. Il a, dans son temps, Jésus aussi un message pour le peuple d'Israël, n'est-ce pas? Il essaie de le détourner de leurs habitudes, de leur corruption, de leur intérêt pour le tourner vers le Dieu, pour faire le bien. Mais ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. C'est encore intéressant de voir que il y a un jugement qui va se jeter sur Israël de la même chose que le jugement qui a été jeté à l'époque de Jérémie. Mais ça va être encore plus dur parce qu'à Babylone, ils sont restés 70 ans. Mais depuis 130, la dernière guerre contre les Juifs, contre l'Israël des Romains, jusqu'à 1948, il y en a 1800 ans. Et le peuple d'Israël a été en captivité pendant une période plus longue, avec le jugement que Christ a eu sur Jérusalem, que celui que Jérémie a transmis à travers des dieux. 1800 ans, il y a eu besoin que le peuple d'Israël puisse retourner dans son pays. Sans parler de tous les pogroms et de tout ce qui s'est passé aux Deuxième Guerres mondiales. C'est terrible de ne pas écouter Dieu. Certains pensent que vous, les chrétiens, avec votre enfer là. Non. C'est pas quelque chose que nous aimerions en parler. On n'aime pas parler de ça. On n'aime pas l'idée que certains puissent ne pas écouter la bonne nouvelle de Dieu et être jetés dans l'enfer. On n'aime pas ça. Mais en même temps, il faut qu'on parle. Si on ne parle pas, le peuple sera dans l'erreur. Et c'est dommage que tant de monde soit pris par ce qui nous semble bien, cool, acceptable, et refuser tout ce qui nous paraisse obtuse, borné, dépassé. Parce que c'est comme ça qu'on trouve que c'est le christianisme aujourd'hui, particulièrement dans l'Occident. Que Dieu nous garde à écouter la bonne parole de Dieu et à le suivre, à ne pas se laisser malheureusement tomber dans une impression de d'une religion acceptable, plus sympathique, dans laquelle il n'y a pas de contraintes, où je peux vivre comme je veux, où il n'y a personne qui va me dire quoi faire et quoi ne pas faire. Parce qu'on n'aime pas que quelqu'un nous dise quoi faire et quoi ne pas faire. On aime bien faire ce que nous semble bien à nous. On a même l'impression qu'on est des bons. On est vraiment des bons. Nous aimons les autres. On est ouvert pour le monde. On est ouvert pour les autres. Mais malheureusement, on se perd. Que Dieu nous garde. Le livre de Jérémie, moi aussi, je n'étais pas très chaud à... Au moment où on a commencé, on s'est dit, bah, on va retourner aussi à un livre des prophètes de l'Ancien Testament. Mais plus je suis en train d'étudier, plus je me rends compte que c'est un bon livre pour nous, pour notre génération du 21e siècle, qui a quelque chose à nous parler à nous, qui veut nous aider à ne pas se laisser influencer comme Judas s'est laissé influencer par les autres nations, par les autres religions. Dieu veut qu'on soit à lui, qu'on lui soit fidèle et qu'on le suit. Et que Dieu nous aide pour vraiment suivre celui qui est mort sur la croix pour nous. Amen.